L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
François d'Assise, Le Chevalier sans armure, est une biographie romancée ou un roman biographique, c'est selon, que vous signez. Luc Adrian, bonjour.
Bonjour.
Avec Jean-François Rod, on tenait absolument à vous recevoir. C'est la vie du Poverello que vous nous retracez dans un langage et une optique très contemporaine. On est au cinéma, il y a des plans séquences, de l'humour, de l'amusement, parfois un peu de cabotinage, mais ça fait pas de mal pour raconter une histoire et pour d'abord raconter. Alors pourquoi vous êtes-vous attelé à un tel travail? Car des biographies sur François d'Assise sont pléthores et les études à son sujet sont parfois pointues.
Christophe, je n'ai pas raconté de façon romancée, mais romanesque. C'est-à-dire
voilà.
Que la vie de François d'Assise est un véritable roman et un biographe est scotché devant cette vie qui, dont le palpitant, c'est plein de rebondissements. Et ça montre que quand on essaye de suivre les voies du Seigneur, eh bien, on ne s'ennuie pas un instant. Et comme le disait Bernanos, la sainteté est une aventure et c'est même la seule aventure. Et François d'Assise le montre de façon
radicale. Alors, il est né en 1182, il est mort en 1226, précisément le 3 octobre. Il est né Giovanni di Pietro Bernardone, rebaptisé Francesco, car son père avait fait de belles affaires en France. L'homme va vivre dans une radicalité aussi surprenante que rassemblante, Jean-François Rod, c'est ça qui vous a marqué?
Ah ben, je voudrais dire à tous les auditeurs que surtout, ils ne craignent pas de lire une vie de saint ennuyeuse, j'allais dire conformiste, bien pensante, enfin, elle est bien pensante, bien évidemment, mais elle est surtout extrêmement vive, extrêmement, vivante, si bien qu'on on rentre tout de suite dans la suite du personnage, et on ne le quitte pas, et c'est vraiment passionnant. C'est bravo d'avoir fait, Monsieur Adrian, bravo d'avoir fait une biographie aussi intéressante, aussi passionnante, que je crois beaucoup auraient envie de lire s'ils savaient que c'était aussi intéressant.
Alors, on va pas le fleurir de compliments, Luc Adrian. Je vous propose, au lieu de raconter la vie de François d'Assise dans notre émission aujourd'hui, je propose de parler de quelques personnages qui sont fondamentaux dans la vie de Saint-François d'Assise. Le premier personnage, qui pour moi est très marquant, c'est le crucifix de Saint-Damien. Un vrai personnage d'une intensité absolue, non pas le crucifix de Don Camillo qui parle, quoique, mais cette belle icône que vous décrivez, je vous cite, Luc Adrian. « Les grands yeux de Jésus pénètrent le garçon jusqu'à l'âme et lui transmettent par un flux mystérieux ses sentiments mêmes, la souffrance horrible qu'il traverse sur la croix, sa douleur de voir tant d'hommes et de femmes s'égarer et se perdre, sa sérénité joyeuse parce qu'il a vaincu le monde et son prince noir. » Et ce combat-là, François veut aussi le mener à ses côtés, suivre le chevalier Christ dans sa croisade contre Satan et ses légions ténébreuses. Voilà qui est plus exaltant que de devenir commerçant. Et plus loin, le Christ est désormais plongé dans la pénombre, mais ses grands yeux le regardent toujours. Il semble lui dire, rien qu'à lui seul, « Reviens, mon enfant, reviens me voir quand il sera temps. J'aurai une mission pour toi, une croisade d'un genre très spécial. N'aie pas peur, je serai avec toi. D'ici là, sache que je ne cesserai jamais de te tenir sous mon regard, ainsi que sous la protection de mes bras. Quant à toi, quand tu ne me reverras plus, regarde-moi encore et toujours. » C'est très important, ce Christ de Saint-Damien, Luc Adrian.
C'est le fil rouge, je crois, de la vie de François d'Assise. Mmh. Et ce qu'il y a de plus important, je crois, c'est le regard de ce Christ. C'est une icône, hein, donc son regard paraît inexpressif. Mais à travers cette peinture qu'on dit d'origine byzantine, syro-byzantine, François voit les yeux mêmes du Christ. Et ce regard du Christ, comme les apôtres, comme les premiers apôtres qui ont tout laisser leur barque, leur famille pour suivre le Christ, le regard du Christ, on ne résiste pas au regard de Jésus. Et François ne résiste pas à ce regard et va le suivre jusqu'à la mort et jusqu'au Golgotha.
Et ce crucifix est fondamental parce qu'il n'est pas du tout doloriste, il est rassembleur. Il a les bras écartés avec des tas de gens sous ses bras. Et puis tout en haut, vous le dites un peu plus loin, vous le rappelez, c'est je crois Sainte-Claire qui le remarque, tout en haut, il y a le Christ qui monte à Dieu et qui s'échappe comme ça. Et c'est peut-être l'Esprit-Saint et on a très discrètement le doigt de Dieu tout en haut du crucifix. Donc c'est un Christ très signifiant.
Et vous avez remarqué, Christophe, que tous les personnages qui sont au pied du crucifié, dont les bourreaux également de la passion du Christ, sont des personnages qui sourient. Mmh. Parce que ce sont des personnages sauvés. En fait, c'est une icône...
Rédemptrice.
Rédemptrice, c'est une icône. Et ce Christ qui s'échappe au sommet du sommet, qui s'échappe pour rejoindre les gens, pour rejoindre la cour céleste, est un Christ qui rit. Et toute la cour céleste rit. C'est-à-dire que François va méditer pendant toute sa vie la passion du Christ. Et Dieu sait le nombre de pénitences qu'il va s'infliger pour ça. Mais il est sûr de la victoire finale, du salut apporté par le Sauveur qu'on vient de célébrer à Noël.
C'est un crucifix de la joie.
C'est un crucifix de la joie.
C'est quand même formidable. Alors, ensuite, il y a les parents. Sa mère, Pica, est française, de Provence, et son père à pied, riche et considéré. François est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Naturellement, ils éduquent le rejeton dans l'idée qu'il sera leur héritier, comme ça se faisait. Et le volte-face du jeune homme est parfois difficile à vivre. Un jour, François vole son père, et puis ça passe devant le tribunal ecclésiastique présidé par Mgr Guido.
Oui. Alors. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Mais moi, je suis scotché par cette liberté incroyable. Ce jeune bourgeois qui avait tout pour réussir. C'est drôle parce que ce matin, en venant, je passais dans le métro et il y a des grandes affiches qui clament « Love Unlimited ». L'amour est illimité et ça, c'est une publicité pour la boutique des plaisirs. Eh bien, François d'Assise, je pense, se serait esclaffé devant cette affiche parce que c'est l'amour illimité qu'il cherche et il a expérimenté ses plaisirs. Et il a expérimenté, jeune bourgeois qui avait tout. Son père lui aurait offert une Porsche. À l'époque, il avait le plus beau cheval, mais ça ne le comblait pas. Et donc, François va vouloir un bonheur qui ne passe pas, un amour qui comble, qui ne laisse pas d'amertume dans le cœur. Et c'est ce qui va expliquer cette espèce de rapidité et de liberté, c'est-à-dire qu'il va tout plaquer. Et vous évoquiez Dame Pica, je suis sûr que ça lui déchire le cœur de quitter Assise pour une aventure dont il ne sait rien, mais il se laisse guider. Et son père qu'il aime, Pietro, il aime, mais il a vu l'argent faire son œuvre de voracité dans le cœur de son père. Il a vu son père devenir dur, impitoyable. Il sait que François, que l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, il ne veut plus en entendre parler.
Alors, il y a les premiers disciples, Bernard, Pierre et Égide. Il s'agit d'épouser la pauvreté pour sauver l'Église. Qu'est-ce qui attire chez cet homme plutôt sale, mal attifé, qui jeûne, qui prie, qui prêche, qui fait l'aumône? Il commence à 3, très vite, ils vont être 3000. J'ai envie de dire en arrivant au port pour parler comme Corneille. Qu'est-ce qui attire? Pourquoi une telle foule à ce moment-là?
Il vit ce qu'il dit.
C'est lié aussi, peut-être vous le dites à un moment, c'est lié à l'époque, parce que c'est le déploiement pour la première fois dans l'histoire, peut-être, justement du commerce. Tout d'un coup, il y a beaucoup d'argent. C'est plus l'aristocratie seulement, c'est plus la féodalité. Il y a un autre monde qui naît, c'est celui des commerçants, c'est celui de...
On est au XIIIe siècle, marchands. Hein.
Et donc, il y a vraiment un changement de civilisation. Pardon, c'est manifestement dans ce contexte-là que François décide de faire ce choix radical. C'est quand même fou de dire, en fait, la fille que j'aime, c'est Dame Pauvreté. Enfin, c'est incroyable. Enfin,
il veut épouser Dame Pauvreté.
Il veut épouser Dame Pauvreté.
Alors, justement, je reviens sur ma question. Il y a plus de 3000 frères. Alors, est-ce la radicalité qui attire? Ou alors une forme de croisade intérieure pour retrouver l'Évangile contre Rome et contre l'appareil ecclésiastique?
Pas contre Rome. Jamais contre Rome. Parfois sans Rome, mais jamais contre Rome. Et je pense que François traversera d'ailleurs des moments de doute et de tentation terribles quand Rome voudra recadrer sa fraternité, en tout cas l'institutionnaliser, en faire un ordre.
Avec un changement de pape, c'est-à-dire qu'on avait d'abord Innocent III qui va régner 18 ans sur le trône de Saint-Pierre et qui sera l'initiateur du Concile de Latran, comme on sait, mais dès le début, il encourage, il accompagne François dans l'élaboration de sa règle. Et lorsque Innocent III meurt, c'est le suivant,
Honorius
III, là va être beaucoup plus dur.
Oui, il va être plus dur, mais...
Et là, il va y avoir du doute chez François.
Il faut voir que, pour compléter votre propos, Jean-François, que l'Église à l'époque est très riche et très puissante, et de nombreux clercs ont une double vie. Et François, en ramenant à l'essentiel de l'Évangile, est un peu un réveil chrétien à son époque. Et c'est ce qui va fasciner, je pense, beaucoup de chrétiens qui sont tentés par les hérésies. Le peuple ne comprend pas l'Église. Les clercs sont sur des trônes ou dans des cloaques. Et François dit non, l'Évangile, ça n'est pas ça. Et donc, il rappelle à l'Église le trésor de l'Évangile et aussi sa radicalité. Il est peut-être dans le monde, mais il n'est pas du monde.
Alors, autre personnage fondamental de cette vie, c'est le diable, c'est Satan. Alors, on commence d'abord par les difficultés de François avec la chasteté. Je vous cite, « Lorsque la chair le tourmente, le pénitent n'hésite pas à se plonger dans l'eau glacée des torrents ou à se rouler dans les orties. » On vient de le voir dans le chapitre précédent. « Il mettra des années à domestiquer son corps, qu'il surnommera frère Anne, car sa chair renacle autant à lui obéir qu'un baudet à son muletier. » Vers la fin de sa vie, lorsque des gens admiratifs le qualifieront d'il santo, l'ascète protestera, ne me canonisez pas trop vite, je suis encore capable de faire des fils et des filles. Excès de prudence, François va même jusqu'à prétendre que se garder du mal tout fréquentant les femmes est aussi difficile que de marcher dans le feu sans se brûler les pieds. C'est un séducteur, c'est un homme qui a séduit, c'est un séduisant. Et alors, le diable, justement, vous en parlez plusieurs fois dans votre biographie, Luc Adrian, et j'aimerais lire juste quelques lignes parce qu'elles sont très importantes pour comprendre. François sourit jaune lorsque des frères inquiets viennent lui confier leurs suspicions. Il préfère botter en touche. Le diable est plus malin. Il évite autant que possible de se dévoiler dans des possessions trop démonstratrices. Il se glisse plus subtilement dans nos penchants naturels pour les dévier, dans nos talents pour les exalter, dans nos désirs légitimes pour les gonfler. Le tentateur se sert chez Élie de la soif de réalisation, d'accompagnement, de plénitude, de désir d'excellence qui l'anime pour le pousser jusqu'à l'excès, la démesure, l'orgueil de domination. Où est l'humilité du serviteur dans la demeure princière que le ministre se fait bâtir d'après ses propres plans sur les hauteurs de Cortone, où des frères convers, après avoir mis le couvert, servent des mets délicats à ses invités de haut rang? Et plus loin, vous posez la question, la vraie question, comment lui expliquer que l'orgueil de vouloir se sauver soi-même et le péché qui damne, ce cas de conscience, torture François? Le diable est tout le temps présent dans la vie de François d'Assise.
Il est présent quand une âme veut embrasser Dieu et suivre le Christ. L'adversaire, donc le Lucifer, l'ange à qui a été confié la lumière et qui a refusé l'incarnation, qui a refusé l'humilité de Dieu s'incarnant pour sauver les hommes. François est fasciné par l'humilité de Dieu, ce créateur qu'il admire dans la nature et qui se fait chair, qui se fait petit enfant, qui va devenir homme et qui va vivre cette passion pour nous sauver et qui va prolonger cette présence à travers le mystère eucharistique et qui fascine François, eh bien, ça, le diable ne tolère pas l'incarnation. Et donc, quand une âme veut embrasser, veut suivre le Christ, il va tout faire de façon extrêmement subtile pour l'en détourner. Et le piège de l'ange d'orgueil, eh bien, c'est justement l'orgueil, c'est-à-dire, et c'est là que François va avoir à combattre, avec des combats spirituels terribles, c'est d'accepter de se déposséder. Il s'est dépossédé de ses biens, mais il va devoir se déposséder de son œuvre en faisant confiance à l'Église, malgré les difficultés, malgré les doutes qu'il peut légitimement avoir.
Et le diable est là pour diviser.
Et il divise sa communauté, il divise sa fraternité.
Alors justement, autre personnage, c'est Élie de Cortone, qui sera excommunié deux fois. Et c'est vachement compliqué, la relation entre François et Élie de Cortone. Parce que Élie de Cortone est très intelligent, assez mondain, mais il a bâtissé des réseaux dans les plus hauts niveaux, donc c'est important aussi pour la communauté.
Tout à fait.
Et en même temps, François lui a donné les clés de son royaume à lui, et alors il s'évite dans le couvent.
Oui, c'est une scène très drôle, ça, mais très drôle et en même temps très pathétique.
Tragique.
Et François va lui dire, à la fin, parce que Élie le supplie, Élie aime François d'Assise.
Ah oui, fondamentalement. Mais comme Judas aimait Jésus.
Peut-être, mais moi j'aime cet épisode parce que ça montre la complexité de... On peut pas faire de François d'Assise un apôtre qui aime tout le monde tout le temps sans nuages. Non, il a ses difficultés. Il y a des frères qui doit préférer à d'autres et d'Élie, il se méfie un peu. Il sent un peu l'homme de pouvoir. Il sent la tentation justement de l'orgueil.
Mais il l'a choisi
chez cet homme. Non, ce sont ses frères qui l'ont choisi.
Oui, enfin, qui l'ont élu.
En fait, il avait choisi Pierre de Catane, qui est mort 6 mois après. Oui. Et c'est Élie qui succède à Pierre de Catane. Et donc, ça n'est pas le choix de François.
Mais c'est
François
pas opposé à l'élection.
Non, il ne pouvait pas.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté, je ne sais pas, grand inquisiteur chez Élie Cortin, c'est-à-dire quelqu'un qui veut installer le christianisme et qui veut quand même mettre de l'ordre, de la solidité, de l'institution, que ça tienne, que ça... Et... un peu comme dans Dostoïevski, le Christ qui arrive et qui... oui, alors le grand inquisiteur lui dit, laisse-nous faire. Tu inspires, ok, mais nous, c'est à nous. Un peu d'ailleurs de prendre un peu peut-être le mauvais rôle de ceux qui mettent de l'ordre. Je sais pas si la comparaison est valable, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le fond...
C'est toute la question de l'intuition et de l'institution. C'est-à-dire que François est dans l'intuition et Cortone est dans l'institution.
Et François a le charisme du fondateur, mais il n'a pas celui de l'administrateur.
Oui.
Et il le reconnaît, et donc c'est à l'Église de l'administrer, mais ça passe par des hommes. Et on sait bien que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et Élie de Cortone a ses propres tentations et ses...
Alors ça, vraiment, ça a été quand même une crise formidable. Enfin, Éloi Leclerc, que vous faites allusion, Sagesse d'un pauvre, raconte cette épreuve extraordinaire de François qui voit son œuvre lui échapper et frôler le désespoir. Enfin.
Et il craint que l'ADN de sa fraternité soit dévoyé par l'Église même. Et c'est là qu'il traverse des doutes absolument
Et c'est là où terribles. C'est une nouvelle croisade, une croisade intérieure.
Voilà,
alors, il y a un personnage fondamental, c'est Sainte-Claire. Sainte-Claire qui, à Saint-Damien, va être un peu la gardienne du temple des origines. Et à la fin de votre livre, on retourne devant le crucifix de Saint-Damien et on a Sainte-Claire qui est là et qui cherche à sauver François par la puissance de sa prière, écrivez-vous. Alors, on parle un peu de Sainte-Claire ?
Oui, très, très volontiers. D'abord, cette fuite éperdue de sa famille, là aussi, c'est une folle amoureuse. Enfin, c'est une folle, elle n'est pas folle, mais c'est une amoureuse folle. C'est-à-dire que son amour pour le Christ est tellement intense qu'elle va prendre la fuite de sa propre famille. Là aussi, c'est quel exemple de liberté intérieure.
C'est-à-dire, elle se coupe les cheveux toute seule. Et quand ses parents viennent la chercher, elle enlève son voile pour montrer qu'elle a les cheveux courts et que maintenant elle s'est donnée à Dieu.
Et l'oncle Montaldo qui va entraîner des hommes d'armes pour essayer d'aller la prendre, parce que non seulement Claire s'enfuit, mais elle est suivie par sa petite sœur et puis par la cousine et puis tout le monde y va. Donc c'est une véritable hémorragie dans
la famille Martin qui prend
la fuite. Et Claire, elle aussi montrera en même temps une énorme obéissance à l'Église et en même temps une très très grande fermeté pour conserver la pauvreté radicale alors que on lui conseille de posséder des terres, etc. Elle est extrêmement ferme, elle est tellement marquée par l'exemple de François, et donc il y a cette amitié merveilleuse entre deux, même si Claire n'est pas la seule femme dans la vie de François.
Il y a une autre femme dont on découvre une lettre tout à la fin de sa vie, et qui finalement était là très présente.
Oui, frère, cette femme romaine, cette veuve romaine, que chez qui François
Jacqueline de Cetesoli
et que François avait surnommé frère Jacqueline justement pour lui permettre de passer le cloître et qui va assister à la mort de François en lui apportant non seulement tout le nécessaire pour le deuil mais une part de gâteau parce que François avait sa gourmandise et on peut dire que il a croqué un petit peu de cette frangipane, puisque le frère Jacqueline était l'épouse d'un comte de frangipanier. On disait que c'était une excellente cuisinière, et François ne répugnait pas du tout à déguster ses saveurs.
Un autre personnage que j'ai envie qu'on évoque, c'est le sultan. C'est quand même incroyable dans cette vie de François, qu'il part en croisade, il va sans armes dans le camp ennemi, en face des croisés. Enfin, il traverse le no man's land entre les fronts et le sultan le reçoit et il discute avec les théologiens du sultan et le sultan lui-même. C'est de fait que vous disiez que c'est une aventure, un roman incroyable. Comment ce petit ce petit homme, avec sa bure, simplement, va discuter avec le sultan. C'est prodigieux.
On en revient aux origines.
Et vous racontez ça formidablement. C'est ça que je voulais dire. C'est, les scènes bien connues, le baiser aux lépreux, etc., vous les racontez le très, très bien. Le loup du Gubbio, évidemment. Non, mais vous revisitez tous ces grands événements et vous en montrez bien le sens. C'est vraiment bien.
Alors, je continue dans la liste des personnages et je propose qu'on évoque en quelques secondes ou minutes Léon. Léon, qui est le fidèle secrétaire jusqu'à la fin et qui va assister quand même à la métamorphose incroyable de François d'Assise dans sa grotte, qui va recevoir les stigmates. C'est le premier saint stigmatisé de l'histoire. Hein. Et Léon, qui est là, qui va lui panser les plaies, qui va l'installer sur un cheval ou sur une mule pour pouvoir entrer, parce que à 38 ans, François est un vieillard usé, fatigué, accablé par trop de maux, de jeûnes, de flagellations, et il est complètement usé, il est stigmatisé maintenant, et Léon est toujours là.
Il est très attachant, ce frère Léon. Il est très, très attachant. Il est prêtre. C'est le confesseur de François, qui, rappelons-le, n'est que diacre.
Toujours
refusé l'ordination
sacerdotale.
Il s'en sentait indigne. Et frère Léon est le confident, le confesseur, le conseiller. Il est dans l'ombre de François, mais moi, j'imagine très bien ces deux compères, et notamment dans le Fioretti de la joie parfaite, vous savez, où François, les auditeurs connaissent sans doute cet épisode fameux où François dit à Léon, mais je vais te dire ce que c'est que la joie parfaite, et alors Léon l'interview en lui disant, mais est-ce que c'est la conversion des musulmans, est-ce que c'est la conversion des chrétiens, est-ce que c'est la conversion de... Non, c'est si jamais nous arrivions sous des torrents dans la boue devant un couvent et que nous frappions et que nous sommes chassés parce que nous ne sommes pas reconnus et que nous sommes chassés, ce serait ça la joie parfaite. Léon est extrêmement attachant.
Vous le croquez bien, parce que lorsqu'il est dans la grotte, Léon n'a pas le droit de venir, sauf quand il l'appelle. Et le matin, notamment, il n'a pas le droit de venir. Et puis, au moment où, justement, où il reçoit les stigmates, Léon comprend qu'il se passe quelque chose, et il vient, et il ment d'une certaine façon. Il dit « Je suis désolé, j'aurais pas dû venir ». Et c'est un moment qui est très, très, très étrange, très complice, plein d'humanité, de virilité, d'amitié. Et en même temps, deux mystères. Alors, il y a deux grands... on a à peu près passé les grands... le crucifix, Picasso, le père, Bernard, Pierre et Égide, Innocent III, le diable, Élite Cortone et Sainte-Claire, Léon, ça, ce sont vraiment des personnages, moi, qui m'ont beaucoup marqué dans votre biographie. Luc Adrien, François d'Assise, Le Chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Il y a une double dévotion, avant que Jean-François nous parle des livres qu'on va aller voler sur les tables de la procure. Il y a une double dévotion qui est celle de l'Eucharistie et celle de la Vierge Marie. J'aimerais que l'on parle un tout petit peu. On a quelques secondes pour notre ami François d'Assise. Je vous cite. Allons-y. François porte à la Vierge Marie une tendresse ébahie d'affection et d'admiration. Elle est pour le fils d'Assise le modèle de l'obéissance abandonnée, la véritable pauvreté à laquelle il tient désormais. La contemplation de Jésus dans les bras de sa mère et celle du visage de sa mère plongé dans le regard de son enfant Dieu, la première adoration, fait pleurer François d'attendrissement, d'émerveillement, d'apitoiement. Des larmes de douleur, mais aussi de douceur, baignent son visage, zigzagant entre les poils rares de ses jouaves s'écoulant par les sillons de ses ravines. Larmes de douleur, en effet, devant le dénuement de la crèche de Bethléem, douleur devant le refus des hôteliers qui préfigurent celui de l'humanité à accueillir son sauveur, douleur devant l'ingratitude des créatures, douleur de se sentir pécheur devant l'Immaculée et trop riche de soi-même devant le Dieu pauvre. Magnifique. Jean-François Rod, qu'est-ce qu'on va voler sur les tables de la procure?
Eh bien, par exemple, un bon livre qui s'appelle Malraux devant le Christ.
Oui,
François de Saint-Chéron.
Ça, je veux absolument que.
Chez Lesquels Brouwer. Alors, François Saint-Chéron, on connaît très bien Malraux. Il a participé, par exemple, aux éditions de la Pléiade, dans les œuvres complètes de Malraux. Et il montre comment.
Il l'a rencontré.
Oui.
Il arrive avec son frère. Et il tambourine à la porte de Malraux, ils veulent absolument le voir, et puis finalement, il lui propose un petit boulot, et lui, il avait un boulot, c'est-à-dire de ranger toutes les photos, et de classer toutes les photos. Et donc, ils vont revenir, son frère et lui, s'occuper des photos de Malraux, c'était un... et ils vont tout classer, et ils vont devenir des intimes d'André Malraux.
Et donc, en fait, il cite, il montre comment Malraux a toujours été intéressé, même fasciné par le Christ. Et alors, Malraux est agnostique, se revendique agnostique, il ne s'agit pas de le baptiser, entre guillemets, malgré lui, mais il a eu une enfance chrétienne, Malraux, et il est... l'auteur montre très bien, en suivant son itinéraire, comment le Christ marque beaucoup Malraux intimement. C'est un très beau livre de François Saint-Chéron, Malraux devant le Christ, chez Decquet le Brouwer. J'ai le temps d'un autre ?
Oui.
Juste pour dire... Alors, ça s'appelle « La dernière avant-garde, le Christ ou le néant » de Romaric Sangars. Alors là, c'est un livre de, vous voyez, d'un jeune homme en colère. C'est un converti radical qui a son franc-parler. Pour les classiques, c'est un peu dur, hein, d'ailleurs, parce que, par exemple, il a écrit un livre, tenez-vous bien, j'ai le droit de parler comme ça. « Suffirait-il d'aller gifler Jean d'Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ?» Voilà comment il parle. Et il dit en
Merci.
Fait, si on n'est pas, on se rebranche pas sur la révélation chrétienne, on est fichu.
Merci pour ces conseils. Merci Luc Adrien pour votre François d'Assise, le chevalier sans armure aux éditions de l'Emmanuel. J'en profite pour rappeler la biographie de Virgile Tanaz chez Folio Biographie, Gallimard. C'est sérieux dans le ton, merveilleusement documenté et lisible. Merci à Jean-François Lérine, François Dieudonné, Louis-Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.